Effectivement, thème de cet après-midi, où en sommes-nous aujourd'hui? Vivons-nous ce que la Bible appelle le temps de la fin? Je crois vraiment que c'est une question importante parce que il y a eu tout de même certaines périodes de l'histoire où on a pensé, on a cru, on a supposé que, ben voilà, on vivait les temps de la fin. Pour mémoire, je pourrais vous citer la grande peur de l'an 1000, où on a laissé entendre aux gens, voire on le leur a dit et prêché à l'époque, c'était l'Église catholique régnante à l'époque, qui a dit que, ben voilà, l'an 1000, ce serait la fin du monde, qu'il fallait faire pénitence et qu'il fallait surtout faire don de ses biens à l'Église. Oui, évidemment, ça n'a pas été perdu pour tout le monde, mais l'an 1000 n'a pas été la fin du monde. Voilà. Je dis ça sans méchanceté du tout, parce que on a vu des fois des choses étranges dans bien des milieux, et pas forcément du tout que dans l'Église catholique. Donc, comprenez-moi bien, je ne lance pas de pointe méchante à l'égard de qui que ce soit. D'ailleurs, vous savez, se tromper est humain. Il y a un proverbe qui dit « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Se tromper est humain, persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais mon père disait de manière un tout petit peu vive et peut-être un tout petit peu triviale, mais il y avait beaucoup de bon sens, il disait, tu sais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Et nous évoluons. Donc, ma foi, parfois on peut se tromper. Alors, d'où la pertinence, me semble-t-il, de cette question, est-ce qu'on est vraiment dans les temps de la fin? Ou est-ce que nous croyons que nous sommes dans les temps de la fin? D'après la Bible, le temps de la fin doit être caractérisé par un signe extrêmement fort et profondément surprenant si on étudie le cours de l'histoire humaine. Le temps de la fin doit être caractérisé par le retour des Juifs de leur dispersion mondiale, retour dans le pays de leurs ancêtres, et par une nouvelle fondation de l'État d'Israël. C'est un phénomène totalement unique dans l'histoire de l'humanité. Un de mes hobbies, c'est l'étude de l'histoire. Vous n'avez aucun exemple, si vous en avez un, vous vous dépêchez de venir me le donner, parce qu'alors, ça sera extraordinaire. Vous n'avez aucun exemple d'un pays qui a disparu il y a 2000 ans, et qui, 2000 ans plus tard, ou un peuple qui retrouve son territoire d'antan, et qui est reconstitué là où il existait il y a 2000 ans. Vous n'avez aucun exemple. Il y a 2000 ans, ben, prenons certains peuples d'il y a 2000 ans, où sont les Burgondes, où sont les Alamans, où sont même les Francs, j'ai beau être en France, mais vous savez, tout ça, ça s'est complètement mélangé. Et c'est fini. D'accord? Pas pour les Juifs, pas pour Israël. C'est un cas unique. Le docteur et conférencier Roger Libby, dans un livre intitulé « Vivons-nous vraiment au temps de la fin ?», relève que 175 prophéties bibliques relatives à ce sujet se sont accomplies de 1882 à nos jours. 175. Dès 1882, les persécutions antisémites en Russie ont amené des milliers de Juifs jusqu'en 1904 en Palestine. Et puis, vous avez des vagues successives qui se sont succédées, et plus de 3 millions de personnes d'environ 130 pays différents des 5 continents sont rentrés dans le pays de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, vous avez 6 millions de Juifs qui vivent en Israël. Il y a d'ailleurs un nombre important et croissant de Juifs français, vous le savez, qui font leur alia, qui quittent la France et qui repartent en Israël. Récemment, plusieurs milliers, voire non, en fait, c'est plus que ça, ce sont des centaines de milliers, d'après les chiffres dont je dispose, plusieurs centaines de milliers de Juifs se sont tournés vers la foi dans leur Messie Jésus-Christ. Par exemple, aux États-Unis, les Juifs messianiques sont 250 000 aujourd'hui. Et là, c'est de nouveau un phénomène unique depuis 2000 ans. Alors, il y a toujours eu quelques Juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie au travers de l'histoire, mais jamais, jamais dans des proportions pareilles. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans Ézéchiel 11, verset 17, il était annoncé « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, oui, je vous rassemblerai d'entre les peuples et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » Et je vous mentionne maintenant quelques prophéties accomplies dans l'époque contemporaine, et qui sont extrêmement frappantes. Ésaïe 60, verset 8. Je rappelle que le livre du prophète Ésaïe a été écrit environ 800 ans avant Jésus-Christ. Et voilà ce que dit le texte d'Ésaïe 60, verset 8. « Qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée et comme les colombes vers leur colombier. » Indiscutablement, Ésaïe a utilisé les mots dont il disposait dans le contexte de l'époque pour expliquer ce qu'il avait vu. Il ne parlait pas d'avion, mais enfin, il a vu qu'ils retournaient vers leur colombier, c'est-à-dire vers leur pays, vers leur maison, ce que Dieu leur avait promis, en volant. C'est quand même intéressant quand on sait que cette prophétie a 2800 ans. D'accord ? On peut aller plus loin. La communauté juive du Yémen, 50 000 personnes, a été évacuée par avion jusqu'à l'automne 1949. Et plus de 100 000 Juifs, eux, ont quitté l'Irak lors de ce que l'on a appelé l'opération Babylone dans l'histoire, et ceci également transporté par avion. Ça a été vrai donc des Juifs du Yémen, massivement, ça a été vrai de 100 000 Juifs en 1949. Un autre élément, événement absolument unique dans l'histoire de l'humanité, c'est la résurrection de l'hébreu. Vous savez tous que l'hébreu était devenu une langue morte, pas ? Elle était utilisée encore dans les synagogues, ceci pour lire l'Ancien Testament, un peu l'hébreu, les juifs pratiquants, les rabbins qui le savaient mieux, mais c'était une langue morte, comme aujourd'hui le latin, par exemple, ou le grec koiné du Nouveau Testament. Vous n'avez personne Vous n'avez pas un endroit dans le monde où tout le monde parle le latin, par exemple, où tout le monde parle le grec koiné du Nouveau Testament. C'est fini. Ce sont des langues mortes. Eh bien, Ésaïe 19, verset 18, affirmait, 8 siècles avant Jésus-Christ, que cette langue, qui aurait été une langue morte, qu'il a été, serait parlé à nouveau au temps de la fin. C'est écrit noir sur blanc dans Ésaïe 19 au verset 18. C'est fantastique. Encore une fois, c'est le seul et unique exemple dans toute l'histoire humaine. Formidable. Jérémie 32, versets 43 à 44. Précise, on achètera des champs dans ce pays. Et vous avez de vastes achats de terrain qui ont eu lieu par les Juifs entre 1882 et 1940. Des fois, on entend, ah oui, mais les Juifs ont volé le territoire. C'est pas vrai, historiquement. C'est pas vrai. C'est une calomnie. D'immenses régions ont d'abord commencé par être rachetées par des Juifs à ceux qui occupaient ce terrain. On ne les leur a pas volés. Je dis ça au passage parce que quand vous écoutez les médias, il n'y a pas plus menteur que les médias. Je peux vous le dire. J'ai suffisamment voyagé pour en avoir des témoignages de tous les côtés. Et entre 1882 et 1840, conformément à la prophétie, eh bien, des territoires considérables, y compris en Cisjordanie actuelle, ont déjà été achetés et non pas volés par les Juifs. Et puis, des villes de l'Ancien Testament, comme l'avait annoncé le prophète Amos, c'est Amos 9, versets 14 à 15, ont été rebâties alors qu'elles avaient été rasées complètement. Je rétablirai le sort de mon peuple Israël et ils bâtiront les villes dévastées et ils y habiteront à nouveau. Extraordinaire. Extraordinaire. Un élément encore surprenant. Suite à la conquête islamique de la Terre Sainte, dès très précisément l'année 632, 632 après Jésus-Christ, la culture de la vigne pour produire du vin a pratiquement disparu pendant 1200 ans. Pour 1200 ans, ça a été fini. Vous savez bien que l'alcool est en principe prohibé sévèrement dans l'islam. J'étais il y a 6 semaines dans un pays très musulman et je n'ai jamais vu nulle part en Europe autant de caddies remplis d'alcool fort dans les supermarchés que j'en ai vu là-bas. Alors entre la théorie et la pratique, il y a un océan d'alcool fort, là. Mais enfin, pendant 1200 ans, dans le cas particulier, il est vrai que la culture du vin a disparu. Et Amos 9, versets 14 à 15, a annoncé « Ils planteront des vignes et en boiront le vin ». C'était une prophétie formidable, parce que pendant 1200 ans, c'était fini. Et actuellement, la viticulture est répandue considérablement, exactement comme c'était annoncé dans Ésaïe 17 au verset 10, « On plantera des cèpes étrangers ». Je vous vous énumère quelques-uns des cèpes que vous trouvez, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, pardon. Beaucoup d'autres. Vous avez du Cabernet Sauvignon, il y a du Merlot, il y a du Syrah, il y a du Chardonnay, il y a des Pinots Noirs excellents. Tout ça dans un pays où pendant 1200 ans, on ne produisait plus de vin. La Bible disait qu'on en reproduirait. C'est fait. C'est fait. Ésaïe 17, verset 10. Et puis, il y a le vin, mais il y a les fruits. Amos parle de fruits. Amos 9, 14. Ils feront des jardins et ils en mangeront les fruits. Dans des régions qui ont été désertiques pendant des siècles et des siècles. En fait, la surface de terre agricole, depuis 1948, a plus que triplé. Et tenez-vous bien, le revenu des terres agricoles a été multiplié par 16. Phénoménal. Phénoménal. Orange, mandarine, grapefruit, avocat, date, banane, etc. Vous mangez de la prophétie quand vous mangez, par exemple, les oranges Jaffa. D'accord ? Ben oui. Et on peut encore continuer, la liste est plus longue. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Ézéchiel 36, versets 34 à 35. Excusez-moi, je pense que c'est un peu lourd pour vous d'entendre toutes les citations, mais c'est à dessein que je les donne. Parce que je ne veux pas prendre le risque qu'on dise il invente. Ah, très bien, très bien.
Ça va arriver.
Ah, formidable. Ah, ben voilà, je ne me doutais pas. Alors, je donne les références à dessein pour qu'on voit que c'est juste. Surtout quand je vous parle de textes qui datent pour certains de 2700-2800 ans. Pour Ézéchiel d'environ 2500-2600 ans, ça fait un bout de temps. Voilà. Vous savez, avec 13 prophéties accomplies, je vous donne ce chiffre au passage, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un professeur de l'université de Mulhouse, le professeur Théophile Amann. Elle m'a dit, tu sais que et il m'a fait la démonstration, c'était facile d'ailleurs, c'est un simple calcul des probabilités, que pour 13 prophéties accomplies, la probabilité qu'elles s'accomplissent par hasard, parce qu'il y a toujours des petits malins qui vont vous dire « Ah ouais, mais c'est comme Jules Verne, il a aussi annoncé des choses qui se sont passées. » Oui, mais attendez, d'abord c'est au 19e siècle. Puis au 19e siècle, on voyait poindre quand même les découvertes du 20e. C'était pas 2800 ans avant. Et puis, ce sont quelques éléments. C'était plutôt ce qu'il annonçait des développements de ce qu'on connaissait déjà. Mais à partir de 13 prophéties accomplies, pour qu'elles s'accomplissent par hasard, c'est 10 à la puissance 40, c'est-à-dire suivi 40 zéros. Or, vous savez peut-être que 10 à la puissance 40, c'est le chiffre à partir duquel un événement, la probabilité, ne s'accomplira jamais. Tellement il est colossal. Colossal. Eh bien, pour les prophéties dont nous parlons, 175, je vous en cite quelques-unes, un certain nombre, quoi, le chiffre auquel vous arriveriez est incommensurable, il est plus élevé que le nombre total d'atomes dans tout l'univers. Il serait impossible d'écrire ce chiffre dans cette salle, par exemple. Tellement il est colossal. il est éternellement impossible mathématiquement qu'il n'y ait pas un Dieu fantastiquement intelligent qui fonctionne infiniment mieux que le plus colossal de tous les ordinateurs, connaissant parfaitement le passé, le présent et le futur, n'est-ce pas, pour expliquer ses prophéties et leur accomplissement. C'est impossible. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande deux livres, pas du tout écrits par des chrétiens évangéliques, hein, pas des gens de notre bord, mais des gens extrêmement rigoureux au plan mathématique et physique. Un est docteur en mathématiques, l'autre est docteur en physique. Ce sont les fameux professeurs Bogdanov. Voilà. Ce sont des génies. D'ailleurs, ils ont une drôle de tête, une tête de génie, mais enfin, c'est des génies. Et je vous recommande deux livres d'eux. Le premier, Le visage de Dieu. Vous lisez ce bouquin, vous réfléchissez un peu là-dessus, vous voyez qu'il est, que Dieu est absolument indispensable. C'est impossible que l'univers d'une aussi colossale complexité existe sans l'intervention de Dieu. C'est éternellement impossible. Mais je vous recommande aussi un deuxième ouvrage de ces mêmes scientifiques qui s'appelle La fin du hasard. Et La fin du hasard est totalement imparable. Il nous dit par exemple que le mot hasard, qui est un mot utilisé couramment, qui est d'ailleurs d'origine arabe, c'est le mot que nous utilisons simplement en avouant notre incapacité de cerner tous les paramètres. Mais que si nous connaissions tous les paramètres, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mathématiquement, il n'y en aura jamais. C'est une manière de s'exprimer qui met en évidence notre ignorance, nos lacunes. Je vous recommande les deux bouquins, si vous voulez voir. Lisez-les pour vous-même, vous pouvez les passer plus loin. À mon avis, c'est une pré-évangélisation remarquable. La fin du hasard, et puis le visage de Dieu. Voilà. Le désert refleurit. Ézéchiel 36, versets 34 à 35. Donc, Ézéchiel, j'y reviens, c'est environ 6 siècles avant Jésus-Christ. Hein. Ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Ah, j'ai séjourné plusieurs fois au Moyen-Orient et en Israël. Et j'étais dans un kibboutz au bord de, tout près de Tibériade, ce qu'on appelait aussi la mer de Galilée. Et pendant la nuit, là, dans ces kibboutz, on charge des fleurs pour l'Europe, qui sont vendues le lendemain matin en Europe. Des quantités absolument phénoménales. Je vous donnerai quelques chiffres. Ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Plus de 230 millions d'arbres ont été plantés sur 80 000 hectares. Chaque année, on plante 2 000 hectares de nouvelles forêts en Israël. Tellement que le climat est en train de changer. Changer l'hydrographie, évidemment, l'hygrométrie, hein, je ne sais pas quoi. Non. Bref, il pleut de plus en plus. Dans tous les détails, chaque prophétie s'accomplit exactement. Production de fleurs. 1,4 milliard de plantes coupées par an. C'est des fleurs, ça, hein? 1,4 milliard. Et l'ensemble de ces phénomènes également est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Quelques exemples encore. À 3 reprises, on a voulu anéantir l'État d'Israël. 3 fois. Très massivement. Première fois, 1948-1949. Guerre d'indépendance. Alors qu'Israël n'avait presque rien pour se battre. C'était vraiment des armes légères et puis leur volonté de se défendre. 7 armées ont été engagées contre Israël. 7 armées arabes. Contre ce, je ne sais pas comment il faut dire, cet embryon d'armée. Et Israël a gagné. Il y a eu des choses absolument invraisemblables. Comme Israël n'avait pas de char, eh bien, dans le désert, à un moment donné, ils ont mis des tracteurs avec des chaînes qui tenaient des troncs d'arbres pendant la nuit. Et quand le soleil commençait à poindre, ils ont mis tout ça en route en allant en direction d'armées arabes qui ont vu des nuages de poussière colossaux, qui ont été convaincus que c'était une gigantesque armée de chars qui arrivaient contre eux, ils sont tous partis en courant. Des choses absolument incroyables. Bon, des ruses de guerre invraisemblables. Mais ils n'avaient que des tracteurs et des troncs d'arbres en face d'armées de chars. Et des histoires comme ça, je peux vous raconter beaucoup. J'avais rencontré le général Peleg, qui, lors de la guerre des 6 jours, avait engagé l'armée d'Israël contre la Syrie, et qui pouvait raconter des choses mais complètement effarantes. Un chrétien, le général Peleg. Mais à un moment donné, il n'a rien compris du tout. Sur le front syrien, comme ils étaient tous engagés de l'autre côté, du côté de l'Égypte, puis ça chauffait, eh bien, c'était pas évident qu'ils allaient gagner. Eh bien, il n'y avait plus rien, ils avaient tout dégarni du côté syrien. Et à ce moment-là, l'armée syrienne a lancé son offensive avec ses chars. Et tout d'un coup, ils se sont arrêtés. Plus avancé d'un mètre. Les Israéliens, vraiment, n'y ont rien compris. Ils n'avaient rien à opposer. À ce moment-là, me disait le général Peleg, en 2 heures de temps, il coupait Israël en deux. Parce qu'il prenait un revers. Sans arrêter, plus bouger. Et après la guerre, il y a eu quand même des enquêtes, il y a eu des... On a voulu comprendre. Alors, expliquez ça comme vous voulez. Mais les officiers syriens ont dit, on a vu une énorme armée devant nous, on s'est arrêté. Arrêté. Il n'y avait rien. Alors, moi, je crois que c'était l'armée de l'Éternel. Moi, je crois que Dieu, dans une situation comme celle-là, a été l'Éternel des armées. Bah, je n'ai pas d'explication rationnelle en dehors de ça. Hein? Quand vous voyez une armée qui n'existe pas, bon, elle existe, mais dans un autre niveau et d'une autre manière. Quand vous parlez au général, au commandant en chef, c'est assez intéressant. Ils ne disent pas n'importe quoi, ces gens-là. 2e guerre majeure. Guerre des 6 jours en 1967. Cette fois, ce n'est pas simplement 7 armées arabes, c'est 11 armées arabes engagées contre Israël. 11 armées. Victoire totale d'Israël. Yom Kippour, en 1973, alors qu'on était au repos, qu'on était en train de prier en Israël. C'était le pire jour où Israël pouvait être attaqué, on jeûnait et on priait. Seize armées, à ce moment-là, se sont lancées contre Israël. 16 armées. Je pense à ce texte du psaume 83, versets 1 à 4, qui me paraît très prophétique, qui dit « Ils ont dit, donc les ennemis d'Israël, « Venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Intéressant. 16 armées. Zacharie 2,8, je crois que c'est là qu'on a l'explication de la victoire d'Israël. « Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » Toucher Israël, c'est toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'Israël fait toujours tout ou juste. Ça, ce n'est pas vrai. J'ai suffisamment été en Israël, j'ai fait de la télévision en Israël, j'ai tourné quelques dizaines de programmes, etc. J'ai trop vu de choses pour vous dire qu'ils font tout juste. Non, ce n'est pas vrai. J'aurais un certain nombre de choses que je pourrais dire, ou non, j'ai dit non, non. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste un peuple sur lequel Dieu a déposé quelque chose d'absolument unique et par rapport auquel Dieu accomplira ses promesses. Alors il y aura encore des tribulations, et comment ? Il y aura des épreuves. Israël devra venir à la repentance. D'accord ? Mais Dieu va accomplir ses plans et il les accomplit envers Israël. Je vous ai donné plein d'exemples déjà. Hein, et il y en a énormément d'autres. Je vous donne une date. Alors c'est un tout petit peu anecdotique, mais c'est quand même intéressant. Vous savez que les chiffres pour les juifs, aussi dans la tradition juive, alors même dans un secteur qui est assez douteux, qui est celui de la Kabbale, mais dans la tradition juive et dans la Bible, ont une signification très précise. C'est important, les chiffres. Et par exemple, vous avez des chiffres parfaits, des chiffres divins, comme 3, quel chiffre de la Trinité divine, vous avez 7, vous avez 12, vous avez 14 en particulier, je ne dis pas que ce sont les seuls, qui sont importants. Et puis 6, on en a un tout petit peu parlé ce matin. Eh bien, visualisez ça. Le 7 du 6, 67. 7, le chiffre de Dieu. 6, le chiffre du maximum de l'homme. Hein, on l'a vu ce matin. Pour l'Antichrist. 7, 6, 6, 7. Ça donne quoi ? L'accomplissement de Luc 21, verset 24. C'est-à-dire, c'est le jour même où s'est accompli ce verset, de cette parole de Jésus, disant que Jérusalem cesserait d'être foulée aux pieds par les nations, redeviendrait possession entière du peuple juif. Et ça, ça ne s'est pas produit à n'importe quelle date ni n'importe comment, ça s'est produit lorsque la date a correspondu au chiffre de Dieu encadrant le maximum humain. Je peux vous dire que l'armée d'Israël a fait le maximum. 7, 6, 6, 7. Alors, je vous donne un élément, sans aller absolument plus loin du tout. Je suis un homme prudent. Les Suisses sont généralement prudents. Mais je vous le donne simplement comme ça. Reprenez depuis 1515. Je ne vais pas en déduire grand-chose. Mais toutes les années, dans les siècles qui ont suivi, par 15, ont été marqués par des événements absolument extraordinaires. Bon, je passe là-dessus. Autre élément, je vous le donne comme ça. Je vous en donnerai encore un autre prochainement. Vous verrez, il y a des choses qui sont complètement époustouflantes. Vous savez quelle année nous vivons en ce moment dans le calendrier juif, d'après le texte de l'Ancien Testament? Nous sommes en cette année, en 5775. 5, 7, 7, 5. 2 fois 7, le chiffre divin, encadré par 2 fois 5, le chiffre de l'infirmité et du péché aussi humain. Je vous garantis qu'il y a une signification là-dedans. Ce n'est pas par hasard. Nous sommes une année où, par exemple, les fêtes juives de la Pâque et de Pentecôte, notamment, sont tombées exactement sur la même date, ce qui est rare. Il y a encore un certain nombre d'éléments qui pourraient être donnés. Mais je peux vous le dire, restant extrêmement prudent, disant le 30% de ce que je pense, nous vivons, je le crois, de manière absolue, vraiment, les derniers temps. Et les signes sont accumulés maintenant. Vous verrez. Le mont du Temple a été reconquis le 7 du 6 67, ce qui a exaucé la prière de siècles où les Juifs ont prié 3 fois par jour pour la libération de Jérusalem. Aujourd'hui, et depuis un certain temps, on l'a vu ce matin dans le DVD, l'Empire romain indiscutablement réapparaît. Le prophète Daniel, en 549 avant Jésus-Christ, en Daniel 7, fait un songe, il voit 4 empires successifs, le quatrième étant Rome. Et en Apocalypse 13, versets 1 à 10, il nous est clairement indiqué, en particulier au verset 8, que cet empire ressuscite à la fin des temps. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est sûr. Dès 1946, je vous donne une citation de Winston Churchill qui déclarait « Nous devons ériger les États-Unis d'Europe. » Et aujourd'hui, l'Union européenne constituée de 28 nations est une réalité. Alors je continue à militer pour que la Suisse n'y adhère pas, parce que nous n'y avons aucun intérêt. Nous avons tout à y perdre dans notre souveraineté. Notre franc est plus fort que l'euro et nous avons en ce moment à peine 3% de chômeurs. Et le chômage qui est à 3% recule. Je ne vois pas bien l'intérêt que nous aurions. Mais j'ai surtout des raisons spirituelles d'être contre. Mais quoi qu'il en soit, je dis que la prophétie s'accomplit de manière certaine. Et prophétiquement, comme l'indique l'Apocalypse, après être monté de l'abîme, hein, cette fameuse bête dont nous avons parlé ce matin, l'abîme c'était quoi? Ben, je crois que ce furent en particulier les terribles destructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait, je vous le rappelle, quand même plus de 60 millions de morts. Comme destruction, c'est colossal. Eh bien, la Bible clairement l'indique, comme nous l'avons cité ce matin, que cette bête ira à la perdition. Si vous voulez davantage de détails, alors il y en a beaucoup plus dans mon DVD sur l'Apocalypse, ça c'est sûr. Et là, alors, j'entre dans quantité de détails, d'éléments, etc., de compléments par rapport à la fin des temps, évidemment, j'aborde encore des choses sous un angle différent, notamment l'histoire de l'Église chrétienne du 1er siècle jusqu'à son enlèvement, en commençant au 1er siècle, donc, par l'Église d'Éphèse, qui nous parle de l'Église du 1er siècle, jusqu'à la dernière, qui est la Odyssée, chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Et là, je donne une quantité considérable d'informations et de détails. Mais ça, ça pointe aussi sur les derniers temps pour notre époque. De façon indiscutable, incontournable. Mais ça, alors, je l'explique dans un DVD d'une bonne heure et quart. Je vous en fais grâce. Mais si vous le voulez, vous pouvez vous le procurer. Apocalypse 17, verset 14 et 19, verset 18, nous révèle que c'est dans cette période que Jésus-Christ reviendra. Alors, jamais, des grands jamais, je ne me risquerai à dire « Jésus va revenir, hein, que sais-je ?» Non, les dates, ça a toujours tombé faux. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, et je crois qu'il faut être prudent. Ceci dit, alors évidemment, il y a les petits malins qui disent « Oui, nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais peut-être qu'on peut savoir le mois. » C'est un peu jésuite. Hein? Moi, je suis beaucoup plus prudent que ça. Mais je dis que le nombre de paramètres, je vous ai donné simplement de façon à peu près approfondie, à peu près, j'ai survolé plutôt, 10 prophéties bibliques sur 175. 10 sur 175. Et ces 10 sont déjà totalement, absolument incontournables, indiscutables, vérifiables, historiques. À moins d'être sourd, aveugle, complètement ignorant, il est évident que Jésus-Christ revient bientôt, très bientôt. Et il reste une question. Sommes-nous prêts? Ça, c'est la question qui reste. Parce qu'on peut savoir tout ça. Et demeurer dans quelque chose qui est absolument, éventuellement contraire à ce dans quoi nous devrions nous trouver au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous parle des vierges sages et des vierges folles. Dans les deux cas, ce sont des vierges qui arrivent au mariage. Mais la moitié sont dans les folles et il n'y en a qu'une moitié qui est dans les sages, qui est au bon endroit et qui aura la bonne destinée. Où en sommes-nous cet après-midi? Je voudrais vous inviter simplement à ce que nous arrêtions quelques instants devant Dieu et que nous fassions le point. Et que nous ajustions ce que l'Esprit de Dieu nous montre à peut-être changer, ajuster, modifier, compléter, décider dans notre vie aujourd'hui. Ce serait vraiment trop bête de passer à côté de l'essentiel alors qu'on en sait tellement. Je dis qu'avec ce qu'on connaît là, on est déjà des millionnaires de Dieu. Et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Ça, on ne pourra pas le dire. Ça vaut la peine de faire le point. Et ça vaut la peine tout simplement de se tourner vers le Dieu de Jésus-Christ, qui est un Dieu de grâce, qui pardonne, qui nous tend la main, qui nous offre le meilleur. Mais quelle bêtise de dire non! Dieu nous offre le meilleur. Je l'ai rappelé ce matin. Hein, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Hein? Choisis la vie. Et cet après-midi, nous voulons choisir la vie. Choisir le chemin avec Dieu. Choisir de tenir ferme. Choisir peut-être de recrocher parce que peut-être qu'on a un petit peu laisser s'installer de la distance. Choisir de dire oui à quelque chose que nous savons dans notre cœur où nous devrions dire oui